France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, voilà plus de 50 ans que ceux que l'on appelle les baroqueux ont révolutionné notre façon de concevoir, d'écouter, de comprendre la musique de Vivaldi, Bach et Rameau, puis de Haydn, Beethoven et Schumann, en recourant aux instruments dits d'époque. Aujourd'hui, on évoque la pratique historiquement informée pour qualifier une démarche qui vise, sinon à reconstituer, du moins à approcher les conditions sonores, acoustiques, mais aussi stylistiques et esthétiques, dans lesquelles ces musiques furent écrites de façon à être le plus fidèle possible aux intentions du compositeur. Mais avoir entre les mains un violon du temps de Lully ou une flûte du temps de Mozart n'est d'aucun secours si on ne sait comment les manier. Il faut pour cela se plonger dans les traités, les méthodes, les écrits du passé. Et c'est ce qu'a entrepris Kai Koepp, altiste et musicologue allemand, pour découvrir les secrets du jeu orchestral, autant baroque ou romantique. Sa passionnante étude vient d'être traduite en français par Fabien Roussel, mon invité, également violoniste et enseignant. La pratique d'orchestre historique, baroque, classique et romantique de Kai Koepp, qui vient de paraître chez Symétrie, traduit par Fabien Roussel. De Lully, c'était l'ouverture d'Armide par les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Vous êtes violoniste, vous avez fait partie du Quatuor Diotima à ses débuts, vous participez de temps en temps à l'orchestre Les Ambassadeurs d'Alexis Kosenko. Par ailleurs, vous enseignez le violon et vous avez traduit donc ce livre allemand de Kai Koepp, ce musicologue et altiste allemand qui a fait une étude absolument passionnante donc sur la pratique de l'orchestre. Donc son travail se concentre essentiellement, on va dire, sur le jeu des cordes, mais pas besoin d'être violoniste, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, pour comprendre de quoi il le retourne. Alors, j'ai dit en introduction, il faut pour comprendre comment à l'époque on pouvait jouer, se plonger dans tous les traités. Pour cela, Kaikup en cite plusieurs. Un des premiers à s'intéresser au travail de l'orchestre, c'est celui de Georg Müffat à la fin du XVIIe siècle, c'est ça ?
Absolument. Qui est d'ailleurs un peu un cas particulier, Georg Müffat, c'est par lui qu'on connaît la pratique de à la fois de Lully et de Corelli.
Oui, c'est un musicien donc, qui était né à Megève et qui avait côtoyé l'orchestre de Lully et qui était allé également en Italie, donc il pouvait avoir un regard des deux côtés des Alpes.
Voilà, exactement. Et ouais. qui a essayé de ramener ses connaissances à ses compatriotes allemands, enfin, à ouais. l'endroit où il travaillait en Allemagne.
Ouais. Alors, si on lit en détail donc, ces traités et on les explique tels que l'a fait Kaikup, on est parfois un peu perplexe parce que on se dit est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on fait vraiment ce qu'il faut, est-ce qu'on applique les règles qui sont dans les traités. Par ailleurs, les règles varient selon les traités, selon les pays. Il y a la façon de jouer du violon à la française, à l'italienne, à l'allemande. Il y a beaucoup question de discipline collective puisque c'est un livre donc qui s'intéresse essentiellement au travail donc de l'orchestre. Et on se rend compte et on imagine qu'à l'époque ça devait être un peu bizarre la façon dont pouvaient sonner les orchestres parce que on a l'impression que parfois les musiciens n'en faisaient qu'à leur tête, les musiciens du rang, les ripianistes tels que on les appelle.
Oui, alors c'est ce qu'explique très bien le livre et c'est d'ailleurs son point de départ. Le musicien de l'époque a pour habitude d'ornementer, d'improviser énormément. Et donc pour lui, l'orchestre qui apparaît finalement, l'orchestre apparaît à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle, le fait de jouer en ensemble comme ça, notamment pour les cornes, qui jouent plusieurs sur exactement la même partie, est une très forte contrainte sur sa capacité à improviser ou à ornementer. Et donc, toute la question centrale du livre, c'est comment, dans un univers de musiciens qui ont l'habitude d'improviser et d'ornementer, comment arriver quand même à une pratique d'ensemble qui soit cohérente, où les gens jouent un peu de la même manière parce que c'est nécessaire pour donner le résultat convaincant qu'on souhaite.
Et Kaikup rappelle que en fait, les partitions de l'époque, en tout cas, on va dire fin 17e, début 18e, étaient assez vides et assez avares d'indications parce que, on pensait que tout bon musicien savait ce qu'il fallait faire. Sauf qu'aujourd'hui, au 20e et 21e siècle, on ne sait plus trop. Enfin, en tout cas, il faut réapprendre.
Exactement.
Fabien Roussel.
Donc, c'est un des points centraux du livre, c'est que cette uniformisation nécessaire, il faut que tout le monde joue de la même manière, elle ne se fait pas par la notation. Elle se fait par des habitudes qui ne sont pas écrites dans la partition, par un certain nombre de ce que Kaikup appelle des normes d'exécution non écrites, c'est-à-dire des manières de jouer. On sait que dans tel type de pièce, telle danse ou bien telle qui porte telle indication, adagio, allegro, on va employer tel type de jeu. On va mettre tel type d'ornement, et ça on le sait, il y a même un théoricien de l'époque qui appelle ça l'orthographe musicale. On doit savoir son orthographe pour pouvoir jouer à l'orchestre. Donc ça fonctionne avec ces normes d'exécution, et ça fonctionne aussi par une subordination au premier violon, puisqu'à l'époque, il faut rappeler que les orchestres n'ont pas de chef d'orchestre.
Le chef se
généralise dans la seconde partie du 19e siècle, mais au 18e siècle, l'essentiel du travail de direction est assuré par le premier violon.
Mmh. Et alors, Fabien Roussel, on comprend bien que les musiciens doivent effectivement apprendre à jouer ensemble, et il y a de nombreux écrits qui mettent en avant, en tout cas, qui recherchent cette discipline collective. Il y a plusieurs extraits de traités qui louent certains orchestres. On a l'impression que c'est un seul bras qui anime tous les archets. Qualité qu'on recherche d'ailleurs aujourd'hui encore dans un orchestre fut-il moderne, enfin entre énormes guillemets moderne. Les cordes jouent ensemble avec les mêmes tirées, les mêmes poussées de façon à avoir une sonorité homogène.
Absolument. Et alors, il y a un orchestre qui se dégage de ce livre, qui a valeur de modèle, pour toute la suite. C'est l'orchestre de la cour de Dresde, la cour du roi de Saxe.
Et pourquoi alors ?
Alors, parce que il doit probablement, si on en croit les témoignages de l'époque, être arrivé à un degré de maîtrise extrêmement impressionnant sous la direction d'un personnage qui est assez peu connu en France, mais qui est très important, qui s'appelle Johann Georg Pisendel, qui était donc le premier violon de cet orchestre, et qui a mis au point, des techniques de jeu d'ensemble dans cet orchestre de la cour de Saxe, qui en ont fait le premier orchestre d'Europe, selon les contemporains, mais enfin des gens aussi dignes de foi que Jean-Sébastien Bach, par exemple. Et donc cet orchestre a valeur de modèle ensuite pendant toute une partie du XIXe siècle, notamment en Allemagne.
Le début de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, le chœur Arnold Schönberg, le Concertus Musicus de Vienne, tous dirigés par Nikolaus Harnoncourt. Fabien Roussel, on ne sait pas si l'orchestre de Dresde dirigé par Pisendel est joué comme le Concertus Musicus dirigé par Harnoncourt, mais manifestement, dans plusieurs écrits, les observateurs ou les théoriciens se plaignent effectivement d'un manque de discipline, de départ approximatif.
Oui, absolument. Je voulais vous lire à ce propos-là une des citations, puisque un des grands intérêts de ce livre de Kaikup, c'est la quantité de citations d'époque qui permettent de
croiser les regards et puis en plus de se mettre vraiment dans le bain.
Voilà, alors ouais. Là, cette citation est particulièrement amusante. Il y en a beaucoup qui sont amusantes dans le livre. C'est un paragraphe de Francesco Maria Veracini, donc le violoniste qui travaillait lui-même à Dresde, et qui dit donc « Le compositeur ne doit jamais commencer la bataille musicale, que ce soit à l'église, au théâtre ou ailleurs, sans avoir fait un signe général à tous ses soldats harmoniques, afin que tous soient prêts à faire feu en même temps. S'il commence immédiatement sans avertir, il risque, particulièrement dans les arias, de commencer seul ou avec peu. » La raison en est que les musiciens d'opéra ont l'habitude, pendant les récitatifs, de tenir de ferventes discussions, d'offrir du tabac à leurs voisins, de nettoyer avec un ongle la mèche des bougies ou de s'accorder forte pour faire entendre leur capacité, de commencer à mettre très lentement leurs lunettes sur leur nez et puis de jouer tranquillement après les autres ou de prendre, avec un grand calme, leur archet sur le pupitre et tout ceci dans le temps où ils auraient dû commencer ensemble avec l'orchestre et non l'un derrière l'autre, comme les sonneurs de cloches lorsqu'ils commencent seuls à appeler à la fête.
Merci Fabien Roussel. Effectivement, donc on peut imaginer un petit flottement hein, dans la discipline de l'orchestre.
Ouais. Donc Kaikup cite ce paragraphe pour parler de l'effet saisissant du premier coup d'archet, formule qu'il faut mettre entre guillemets, quelque chose qui était inhabituel pour les auditeurs de l'époque, c'était justement d'entendre tous les musiciens de l'orchestre commencer ensemble après un silence, ouais. Et l'effet était tellement saisissant que les gens, les voyageurs, venaient spécialement pour entendre le premier coup d'archet, c'est-à-dire l'attaque forte de l'orchestre au début d'une pièce.
Ce qui aujourd'hui, pour nous, va évidemment de soi, c'est même le minimum qu'on attend d'un orchestre. À l'époque, c'était effectivement quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Voilà. Ouais. Fabien Roussel, est bien distinguer la pratique entre justement les solistes et les musiciens d'orchestre. On sent que les solistes, eux, ont vraiment toute liberté, justement, vous le rappeliez, d'improviser, de rajouter des ornements, alors qu'à l'orchestre, c'était au contraire, il fallait vraiment se fier à ce qui était écrit. Et certains compositeurs, on vient d'entendre Dubac, étaient justement un peu critiqués parce que tout était noté et la marge de liberté accordée aux interprètes était vraiment très 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 faible.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, peut-être paradoxalement, beaucoup de théoriciens de l'époque disent que le métier de musicien d'orchestre est beaucoup plus difficile et beaucoup plus méritant que le métier de soliste, puisque le soliste peut ornementer librement, il peut jouer selon son bon plaisir, il peut retarder ou accélérer le tempo comme il le souhaite, et surtout, il n'a pas tellement à se préoccuper de l'intention du compositeur, puisqu'il joue à sa façon, à lui. Beaucoup de théoriciens de l'époque et de musiciens, par exemple Léopold Mozart, le père de Wolfgang, oui. Insistent sur le fait que le musicien d'orchestre doit être beaucoup plus intelligent, quelque part, doit beaucoup mieux comprendre la musique pour pouvoir se mettre au service de l'intention du compositeur.
Mmh. Un peu une sorte de renversement de la hiérarchie par rapport à aujourd'hui où vraiment la vedette, c'est le grand soliste et le musicien d'orchestre, on sait que ce sont tous des musiciens fantastiques, mais effectivement, il y a quand même une hiérarchie et là, est inversée.
Si on en croit le livre de Kaikup, la hiérarchie de l'époque était la même qu'aujourd'hui, mais les théoriciens insistent sur la nécessité
et sur le travail énorme, c'est ça. Fabien Roussel, de très nombreux, on l'a dit, et vous l'avez rappelé, traités d'époque sont mis à contribution, sont cités donc dans ce livre. On a parlé déjà de Muffat, vous venez de citer Léopold Mozart, donc le père et son grand traité de violon du milieu du XVIIIe siècle. Il y a aussi le traité de Quandt sur la façon de jouer de la flûte, mais qui s'étend à tous les autres instruments de l'orchestre. On a l'impression que le XVIIIe siècle est vraiment une grande époque de mise en écriture du savoir, ce qui est vrai parce que ça aboutira évidemment à l'encyclopédie, mais également dans le domaine de la musique.
Oui, absolument, et c'est notamment vrai en Allemagne. La plupart de ces traités ont été écrits en partie sous l'impulsion de Marpurg, d'ailleurs, qui avait une revue, Léopold Mozart le dit lui-même. Et puis ensuite, le traité de Léopold Mozart génère une espèce d'émulation à valeur de modèle et beaucoup de gens derrière écrivent des traités semblables qui complètent, qui nuancent, qui prennent les choses un peu différemment, mais qui se réfèrent souvent à Quandt, effectivement, et à Léopold Mozart. C'est vrai en particulier dans le domaine de la pratique d'orchestre, où il y a beaucoup moins de choses en français ou en italien, mais il semble que les Allemands les gens de langue allemande aient senti la nécessité de théoriser un petit peu et d'expliciter la pratique d'orchestre qui avait atteint un tel niveau chez eux. Thank you.
Frédéric Balthasar au violoncelle, Sébastien Dérin au clavecin à l'orgue, André Henrich au théorbe et au violon Fabien Roussel, c'est-à-dire vous-même, dans cet extrait des sonates du Rosaire de Bieber. Alors là, on a fait un petit écart, on quitte la pratique d'orchestre, là, c'est la musique évidemment de chambre, mais on sait que ce recueil des sonates du Rosaire de Bieber sont pour tout violoniste une sorte d'Everest qu'il faut gravir, parce qu'on sait qu'au gré de chacune des 15 sonates, il faut réaccorder son violon, quelles sont les principales difficultés et surtout sur quel type de traité vous êtes reposé, vous, Fabien Roussel, quand vous avez abordé ces sonates du Rosaire de Bieber.
Alors, c'est une question très intéressante. La pratique des solistes, précisément, comme était Bieber, un grand virtuose, ne se retrouve pas dans les traités. Donc, c'est pas sur les traités du XVIIe siècle qu'on peut se baser pour jouer des pièces aussi particulières, aussi complètement hors normes sonates du Rosaire de Bieber. J'en profite d'ailleurs pour juste signaler que c'est Éric Lebrun qui est à l'orgue dans l'enregistrement.
Ah, parce qu'il n'est pas mentionné sur la pochette du disque.
Voilà.
D'accord.
Donc sur ces sonates-là, c'est la difficulté est surtout dans la notation qui dit extrêmement peu de choses, la notation musicale.
Donc vous avez une grande liberté du coup alors.
Une grande liberté, mais en même temps, il faut essayer de faire quelque chose de cohérent, ouais. D'essayer de comprendre aussi, bien sûr, le rapport avec le programme musical de ces pièces, hein, puisque c'est des pièces sur les mystères du Rosaire, ce qui n'est pas toujours évident, enfin, ce qui peut donner lieu à pas mal de spéculations. C'est pour ça que ces pièces sont autant jouées, autant enregistrées.
Revenons au livre de Kay Cup qui nous occupe, donc la pratique d'orchestre historique, baroque, classique et romantique, que vous avez traduit, donc Fabien Roussel. On apprend que cette discipline d'orchestre qui est recherchée, dont l'orchestre de Dresde était le modèle dans le premier XVIIIe siècle, finalement, on ne la trouve que au milieu du XIXe siècle, ce qui paraît quand même totalement étonnant. Cette discipline d'orchestre, cette homogénéité des grands orchestres, il faut attendre le milieu du XIXe siècle, à peu près.
Alors, il y a quand même des orchestres...
Il y a l'orchestre de Mannheim, par exemple.
Voilà, il cite quelques exemples. Ce qu'il explique bien, effectivement, c'est qu'en Allemagne, après le passage de Napoléon, les chapelles, enfin, puisque la particularité de l'Allemagne, c'est qu'il y avait un orchestre pratiquement dans chaque principauté, enfin, dans chaque
cour. Et il y en avait beaucoup.
Et il y en avait énormément. une mosaïque
d'états. De quelques 300, je crois, à peu près.
D'où aussi, peut-être, la richesse de la pratique orchestrale, enfin, et le fait que c'est particulièrement intéressant de s'y pencher en Allemagne. Il y a beaucoup d'orchestres, mais tous ces orchestres ont été dissous après le passage des troupes napoléoniennes, d'où une perte du savoir-faire. Et effectivement, il faut attendre quelqu'un comme Spohr, le violoniste Louis Spohr, au XIXe siècle, qui connaissait très bien Quandt, qui s'y réfère, qui connaissait donc les traités du XVIIIe siècle, pratiquement un siècle avant lui, et qui essaie de restaurer la qualité d'orchestre qu'avait atteint l'orchestre de Dresde, mais qui va mettre effectivement un certain temps et utiliser aussi un petit peu d'autres moyens. C'est lui l'inventeur un des premiers en tout cas à avoir utilisé la baguette pour diriger l'orchestre. Donc c'est à la fois quelqu'un qui se réclame du passé glorieux de l'orchestre de Dresde et en même temps quelqu'un qui innove, comme l'explique d'ailleurs très bien Keike. Come on, so chill, no.
Le contre-ténor Derek Lee Ragin, la Cappella Coloniensis, dirigée par William Christie, c'était un extrait de la Cléophile de Hasse, une œuvre qui est mentionnée dans ce livre, Fabien Roussel, parce que son titre en allemand, c'est Handbuch, c'est-à-dire un manuel, donc c'est un livre assez didactique.
Oui, c'est un des objectifs du livre, c'est de récapituler un petit peu les connaissances sur le sujet, de les présenter d'une manière un petit peu didactique, vraiment avec des chapitres, des renvois. Donc c'est à la fois un livre très vivant parce qu'il y a beaucoup de citations, mais c'est aussi un livre qui peut être utilisé presque comme un usuel pour le musicien. Ouais.
Et même pour le mélomane qui veut se plonger, qui veut connaître comment mieux écouter la musique de Bach, de Handel ou même de Mozart ou de Beethoven. Merci beaucoup Fabien Roussel. Je rappelle que vous êtes musicien et c'est vous qui avez traduit ce livre de Eka Ekup, La pratique d'orchestre historique, baroque, classique et romantique, qui vient de paraître chez Symétrie. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, Philippe Mercher à la technique, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Cécile Godefroy, commissaire de l'exposition Les musiques de Picasso à la Philharmonie de Paris. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.